Parce que les règlements ont énormément changé dans la Ligue nationale quand on regarde ça. T'sais, avant, les mises en échec, là, je regarde le hockey des années 80-90, quand les joueurs se faisaient pincer center ice. Ouais. Un gars comme Eric Lindros là, qui avait une solide charpente qui s'est fait détruire
par Scott Stevens,
center ice. Aujourd'hui, ça serait...
Il n'est pas capable de jouer ce style-là.
Non, c'est ça. Puis est-ce qu'il y avait autant de blessures qu'il y en a actuellement? Puis,
Oui, puis différent. Puis comme côté à cette heure, ils font beaucoup plus attention aux commotions.
Ouais.
Côté de la tête. Nous autres, on arrivait au banc, puis on disait, mettons, on avait collecté eux comme il faut dans le coin. Là, on venait étourdis au banc, on voyait des étoiles, mais je shakais la tête, puis on partait. Là, à cette heure, ils prennent pas de chance. Et, ils sortent la personne pour le match. Puis c'est correct aussi. Là, parce
ouais, c'est ça.
Nous autres, il y a des affaires qu'on faisait que c'était pas. C'est juste que ça évolue là, comme tout. Là. L'équipement aussi a évolué beaucoup, mais la vitesse du jeu, là, je regarde les jeunes patiner, il y a comme une transition qui s'est faite. Il y a une génération là, que ça patine, là, comme le Midget 3A. Mon frère coach Midget 3A, puis je regardais les matchs là, en playoff des dernières semaines. Les jeunes, ils vont vite, sont skills, ils ont beaucoup d'habileté.
Ces techniques de patinage-là, sont-elles arrivées au même moment que lorsque les filles ont commencé à enseigner aux gars comment patiner?
Ça se pourrait. Mais il y a beaucoup de... Tu sais, c'est l'évolution de l'entraînement.
Ouais.
Ensuite de ça, la technologie des patins aussi. Les exercices qu'on fait sur la patinoire. Il y a des drills de hockey, ça évolue, là, veut pas. Là. À cette heure, avec tous les réseaux sociaux, mais, tu sais, quelqu'un il va faire un drill de maniement de bâton ou de patin. Puis ça fait le tour de la planète, ça prend une semaine. Puis là, tout le monde a la chance de le faire, autrement dit.
Tu sais, là, il y a des experts qui étudient la façon de patiner de Connor McDavid. Parce que lui, tu sais, oui, il évolue dans la Ligue nationale de hockey, mais il est au-dessus d'une...
Il est sur une autre planète.
Là.
On dirait qu'il est retour vers le futur, lui.
Exact.
C'est un gars qui est 50 ans avant. Là.
Fait que là, les gens regardent comment il patine puis ils essaient de montrer sa technique. Ouais. Mais je veux dire, il est tellement ailleurs. C'est exceptionnel ce qu'il fait là. Mais je veux juste revenir aux blessures. Je regarde les Canadiens de Montréal. Je pense que trois quarts de l'équipe est hypothéquée. C'est ça en raison du fait que les gars s'entraînent 12 mois par année à cette heure?
Il y a peut-être ça, puis peut-être des fois, ça peut pas, on peut pas penser aujourd'hui d'être mal entraîné parce que les coachs physiques, ça évolue aussi.
C'est des spécialistes.
Des spécialistes, ça l'étudie, mais des fois, ça peut arriver. Surentraînement non plus, c'est pas quelque chose de bien. Il y a un joueur qui joue pour un Québécois, là, Vlasic, là, qui joue pour...
Marc-Édouard Vlasic.
Oui, lui, jamais blessé. Puis ça a l'air que c'est pas un gros bourreau d'entraînement. Je le connais pas personnellement. Là,
okay.
Mais ce que j'ai su, c'est que c'est pas un gars qui est surentraîné, mais il est jamais blessé. Fait que des fois, c'est dans la physionomie aussi. Là.
Okay.
Je connais des joueurs que c'était bâti comme des camps, puis c'était fragile. Là. Ça se blessait partout, tout le temps. Ça dépend des produits aussi. Il y a des gens, peut-être, des fois, qui consomment certains produits pour performer. Puis que c'est la réaction du corps à... Ça dépend.
Puis les commotions, toi, as-tu été victime de ça? Ça t'as-tu amené des impacts pour plus tard?
C'est quand même correct, tu sais, je te dirais. J'en ai fait quand même deux bonnes solides là, vers la fin, là, dans le semi-pro, dans le fond, quand j'ai joué au semi-pro. Qu'à un moment donné, je t'ai mêlé un peu. Là. J'ai été une couple de mois que des fois, les maux de tête, mais plus maintenant, je le sens pas. Ou je le vois pas. Tu sais, peut-être je suis sénile.
Les gens t'en parlent.
Des fois, je dis quelque chose à la radio, les gens disent peut-être c'est quoi, ça suit pas.
Ouais, c'est pas grave, c'est guette.
Peut-être un panneau électrique, des fois, qui fait défaut. Mais...
Moi, j'ai fait un accident de char, je me suis pété à la tête, puis ça a pris à peu près 6 mois là, en revenir. Ouais. Puis ce que je trouvais bizarre, c'est que j'avais l'impression qu'il y avait comme deux personnes à l'intérieur de moi. Là, puis. On dirait que des fois, je m'entendais réfléchir. Hey, le temps que ça revienne, c'est complexe le cerveau.
Puis tu tournes rapidement puis tu vois flou.
Exact. Donc,
moi, je m'en suis rendu compte quand je suis revenu sur la glace.
Ouais.
Mon champ de vision était plus restreint dans des moments rapides.
Okay.
Des fois, là, mettons, avant, là, on comprend tout ce qui se passe autour. Il y a quelqu'un qui s'en vient dans ton dos, tu le vois venir, mais... Mais après avoir fait ça, j'ai trouvé que le champ de vision était plus restreint un petit peu.
Ouais.
Puis je pense que c'est ça.
Ouais. Puis aux Olympiques à Nagano, comment ça a été?
Ça, nous autres, on a fait le pré-olympique.
Okay.
Et on jouait contre l'équipe, justement, qui représentait le Japon. Oui. Qui était dans la deuxième division.
Avez-vous bien représenté le Canada?
Oui puis non.
Comment ça?
On a eu un escarmouche à un moment donné. Ça,
un escarmouche?
On a dû avoir un meeting. Là, l'ambassade canadienne n'était pas vraiment fière de nous autres. Mais c'est un... Tu sais, je veux dire, c'est pas nécessairement... C'est sûr que quand tu joues tout le temps contre la même équipe, à un moment donné, il installe une rivalité. Là,
exact.
Eux autres étaient venus au Canada, puis là, on allait au Japon. Puis à un moment donné, ben, il y en a un qui a passé sur le bord de notre goaler, puis ça faisait quelques fois qu'il se faisait accrocher. Fait que là, il a voulu mettre de sauce un peu, fait qu'il s'est tiré à terre.
Okay.
Notre gardien de but, autrement dit, a comme faké, qui s'était fait rentrer dedans pour faire prendre une pénalité.
Okay.
Là, nous autres, on a vu qu'il était sur le dos. Fait que là, il y a comme une foire qui a pogné.
Fait que les bains se sont vidés.
Ah non, ça... Là, aujourd'hui, on fait plus ça. Là, mais
non, c'est ça.
98, là, on s'est battu pendant au moins une demi-heure.
Ils vous ont passé en meeting?
Oui, c'est ça.
La délégation du Canada aux Olympiques.
Là, ça, c'était inacceptable. Puis que si jamais on recommençait, il aurait fallu que je paye mon billet d'avion pour venir à la maison.
OK, mais c'est peut-être moi qui ai des idées préconçues, mais il me semble que les Japonais sont pas super shapés, là.
Non, c'était pas une grosse équipe.
Non.
Il y avait des joueurs qui jouaient, par exemple, en Amérique du Nord, dans la Ligue américaine, dans l'East Coast. Puis, c'est juste parce que c'est arrivé de même. Tu sais, il y a eu des escarmouches un petit peu. Là. Ça n'a pas été des bâtons comme on voit dans les années, mettons, comme Slapshot.
Ouais.
Tu sais, il y en a qui se tiraillaient plus que d'autres choses.
Wow.
Deux, trois. Mais il y en a qui ont sorti avec des bleus, c'est sûr. Là.
Ça, c'est clair.
Mais ce qui m'a surpris, c'est qu'à un moment donné, moi, je suis revenu au banc, puis j'étais assis en arrière parce qu'on jouait sur des piscines là-bas. Tu sais, c'était des piscines olympiques qui ont mis des patinoires parce qu'il y a beaucoup d'espace là-bas.
OK.
Fait que là, ils faisaient des patinoires par-dessus les piscines olympiques. Fait que des fois, on shootait la rondelle, les pratiques, passait par-dessus la bande, bâton dans la piscine.
C'était
comme au Peps. Là. Dans le fond, c'est le Peps. Là. Ils mettaient une glace par-dessus ça. On jouait là-dessus. Puis,
ça devait être exceptionnel à vivre.
Oui, c'était différent. Puis la foule, c'est différent aussi. Comme en Europe, là, quand on voit des matchs européens, il y a du tam-tam, là, puis il y a une section qui joue de la musique tout le long. Là, tout le long de la game. C'est impressionnant comment c'est différent. Puis justement, cette fois-là, ben, j'avais rentré au banc pour, tu sais, bizarrement. Puis à un moment donné, le coach me regarde et dit, comment ça, toi, t'es 17, t'as pas deux minutes. Il restait 11 gars sur le banc. Je pense que tout le monde était dehors. Tout le monde était sur le banc de punition, ça rentrait plus. Il y en a qui sont sortis. Puis moi, j'avais pas de deux minutes. Il dit, ça marche pas, ça. Tu peux pas avoir de deux minutes.
Ouais.
J'ai dit, ouais, j'ai rien fait, finalement.
Ouais, mais c'est des beaux souvenirs. Ouais. Cobalt Investissement, c'est quoi ça exactement?
Bien, Cobalt, nous autres, ce que j'ai fait, c'est que durant quand j'ai commencé, dans le fond, ma carrière de hockey, puis même avant ça, c'est que mes parents se sont intéressés à l'investissement boursier à un certain moment donné. Puis quand j'ai commencé à l'âge de 14 ans à aller avec mon père dans les meetings de financiers.
OK.
Puis, dans le fond, tu sais, tout le monde, on gagne de l'argent quelque part dans nos travaux, dans notre travail respectif. Puis là, ben, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé justement à m'intéresser à ça. À l'âge de 18 ans, ben là, j'ai commencé à placer mon premier bonus de signature, dans le fond, que j'ai eu avec les Blackhawks quand j'ai signé avec eux autres mon contrat professionnel. Je l'ai investi dans des fonds mutuels. Puis là, j'ai commencé à préparer, autrement dit, là, le futur avec les REER. Le CELI n'existait pas dans ce temps-là.
Fait qu'à signature, les Blackhawks t'ont donné un montant. Ouais. T'as pas bu une partie? T'as tout mis ça directement?
Ouais, j'ai pris, dans le fond, payé un bout d'impôt.
Ouais.
Là, j'ai payé le bout d'impôt. J'ai acheté un véhicule, un bas de gamme, puis j'ai placé le reste.
Ah, mais t'es quand même raisonnable.
Ben, tu sais, j'avais appris, mon père m'avait appris comment faire. Puis,
ben oui.
Tu sais, t'en dépenses une partie, mais t'en sauves une partie. Fait que j'ai commencé comme ça, j'aimais ça. J'ai toujours été attiré vers le fonctionnement de l'argent. Je ne suis pas une personne qui est en amour avec l'argent dans un sens que c'est pas problématique. Là. Il y a des gens, des fois, que les autres sont avares. C'est juste que j'aime le fonctionnement de la finance. Ça m'intéressait, comme l'investissement immobilier, l'investissement financier côté boursier. Puis là, ben, j'ai commencé comme ça. Mais à un moment donné, je me suis intéressé à plus personnellement. Mon père m'avait montré, là, je me souviens, là, il m'avait amené dans son bureau, puis il m'avait montré un graphique boursier dans le temps qu'on utilisait sur un site web. Là, c'était beaucoup moins poussé qu'aujourd'hui. Puis là, il m'avait montré une petite ligne rouge qui est une moyenne mobile. Puis là, il m'avait dit, regarde, quand le prix passe par-dessus la petite ligne rouge qui est là, ça c'est un signal d'achat. Fait que là, ça m'avait intéressé de voir le fonctionnement de tout ça. Puis à partir de là, ben, là, j'ai commencé à m'ouvrir moi-même mon compte de courtage qu'on pouvait à l'époque. Ça coûtait 50 $ la transaction là, dans ce temps-là. Ça a tombé à 30 rapidement, puis ça a évolué depuis ce temps-là. Puis là, j'ai commencé comme ça. Puis au fur et à mesure, ben, j'ai pris des formations, lu des livres, évolué, puis j'ai augmenté mes connaissances. Ben, puis on a commencé, ben, dans le fond, Cobalt Investissement a vu le jour à un moment donné. Il y a des gens qui me demandaient comment je faisais. Là, parce
pour faire de la formation. Il était intéressant d'avoir de la formation de ta part.
Ben, il y a des gens qui me posaient des questions comment je faisais. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui voulaient faire ça, mais qui n'avaient pas de connaissances.
Ouais.
Je me suis dit, m'a partagé ce que je connais.
Ben oui.
On se fait un petit groupe, parce que quand j'en jasais avec les gens, là, à un moment donné, moyenne mobile, puis les stochastiques, là, on parlait à quelqu'un tout de suite avec ça.
Mm-hmm.
Puis là, ben, ça a connu du succès, ça a connu de l'ampleur. Ben, à un moment donné, ben, là, au fur et à mesure, c'est devenu une vraie école, dans le fond, privé d'analyse technique et de formation boursière là, pour apprendre aux gens comment faire leurs propres investissements eux autres-mêmes en utilisant les technologies d'aujourd'hui pour bien faire ça.
Puis tu continues de suivre tes élèves avec le temps. Là, ouais. Les élèves continuent de faire partie de leur groupe et en gang, il y a de l'information qui se transmet aussi. Puis vous autres aussi, vous leur transmettez de l'information sur des trucs qui seraient intéressants pour eux.
Mmh. Ben, dans le fond, moi, ce que j'ai commencé, c'est que j'ai voulu offrir une formation. Mais je savais que, avec le parce qu'avec quoi ce que j'ai passé aussi dans mon évolution à moi-même,
ouais.
Je savais que les gens, si. Ça, c'est dans tous les domaines. Ça prend une continuité, là. Ça prend un suivi. Là. C'est comme le training. Tu peux montrer à quelqu'un comment s'entraîner, mais si tu le suis, ça va l'aider, à avoir de la motivation. Puis la majorité, ça, c'est de la psychologie. La majorité des gens, ben, s'ils ont un suivi, ça va poursuivre, ça va bien aller. Puis à un moment donné, le déclic se fait. Fait qu'on a transformé la formation en un écosystème, justement, de formation où ce que les gens puissent venir à une place pour prendre leur information. Puis là, ce que je fais, bien, moi, j'analyse des titres pour nous, dans le fond, là, pour nos propres transactions. J'analyse des titres, j'analyse des mouvements, puis on fait des transactions sur des produits. Puis là, ce que je partage, autrement dit, cette information-là aux élèves pour qu'eux autres soient capables de prendre l'expérience dans leur première transaction, dans leur premier temps, puis qu'ils évitent les erreurs coûteuses, autrement dit, que j'ai faites que je ne savais pas dans le temps.
Ouais.
Quand tu évites ça, puis que tu sais... Parce qu'à la bourse, là, regardez, là, vous avez peut-être 35 000, 40 000 titres sur le marché nord-américain.
Oui.
Puis peut-être qu'il y en a 2500 que ça vaut la peine de regarder. Là, les autres, il y a beaucoup de coquilles aussi, okay. De compagnies de croissance. Puis des
fait que les étudiants chez Cobalt Investissement, ils bénéficient des erreurs que tu as faites sans les faire.
C'est ça. Oh. Je les explique. Fait que moi, je les ai faites, j'ai payé pour.
Ouais.
Fait que là, dans le fond, quelqu'un, ben là, je lui ai dit là, comme ça, ben, c'est mieux de ne pas faire ça.
Ouais. Parce qu'en bourse, les erreurs sont cruelles. Là. C'est parce que tu payes de ta propre poche de tes erreurs.
Puis là, il y en a qui vont payer le prix aussi avec la crypto.
Ouais.
La crypto, c'est la même affaire. C'est que, ben, c'est dans un sens. À la bourse, tu as des compagnies que ça ne vaut pas la peine. Puis dans les crypto-monnaies, ben, tu as des cryptos que ça ne vaut pas la peine. Puis à la bourse, tu as des titres qui sont manipulés. Ben, crypto, ben, y a beaucoup d'affaires comme ça.
Ouais, c'est ça.
C'est normal. C'est une nouvelle technologie, une nouvelle plateforme. Puis moi, ce que j'essaie de dire aux gens le plus possible au début, c'est que si tu ne comprends pas ce que tu achètes, tu ne l'achètes pas.
Ça, c'est
des choses que j'ai faites dans les premiers temps. Là. L'être humain est motivé par deux choses. Il veut avoir quelque chose ou il a peur de passer à côté de quelque chose. Puis beaucoup de gens font de l'investissement en ayant peur de passer à côté d'un mouvement parce qu'ils ont entendu parler de son voisin puis ils disent « Achète ça, tu vois, ça va monter, sinon tu vas passer à côté.
Ouais. »
Ça, il y a beaucoup de gens qui font ça. Puis malheureusement, ben, ce n'est pas une stratégie d'investissement.
Puis tantôt, tu as dit « Si vous ne connaissez pas quelque chose, ben, allez-y pas. » C'était tellement un bon conseil. Moi, je me souviens, j'étais le soir, j'animais une tribune libre à radio, on parlait d'investissement boursier, puis il y a quelqu'un en ondes, un auditeur qui me dit « Yann, check ça, Lyon Électrique, c'est le prochain joyau québécois, c'est l'avenir, c'est tout ça. » Le soir même, je regarde comment je peux placer, je me transfère ça, puis le lendemain, je fais ma transaction, puis je me dis « Je regarderai ça plus tard.
Ouais. »
Ben, finalement, ça n'a pas été payant. Là.
Pas pour le moment.
Mais tu sais, je n'avais pas regardé qui était derrière ça. Je voyais bien que le gouvernement était derrière ça, mais qui était réellement derrière ça, j'aurais peut-être dû me méfier parce que l'action a tellement descendu que tu sais, il n'y a pas personne qui est heureux là, de l'investissement qu'ils ont fait avec Lyon Électrique.
Ça, c'est pas la seule chose, puis c'est pas parce que c'est une mauvaise compagnie, c'est parce que dans l'investissement, là, un point que les gens peuvent utiliser, là, un point de référence, c'est que tu veux investir pour participer. Parce que quand tu achètes des actions d'une entreprise, donc on parle côté investisseur, on ne parle pas côté spéculation. Là, on ne parle pas d'achat-vente rapidement. Là,
c'est ça.
On parle d'investissement. Tu veux investir dans une compagnie. Quand tu investis dans une compagnie, c'est que tu achètes des actions, tu achètes une fraction de l'entreprise. C'est comme si tu l'achetais au complet. Je vais donner un exemple. Si j'achète des actions de Visa, bon, mais il faut que j'aie la même mentalité que comme si j'achetais la compagnie au complet. Donc, je suis propriétaire en partie de Visa, puis je participe à la profitabilité. Puis ça, c'est le mot-clé de Visa. Donc, si Visa fait des bénéfices, j'en profite parce que je suis actionnaire, ouais. J'en ai une partie qui vient à moi. Mais si la compagnie n'a pas de bénéfices, c'est quoi que moi, je participe en investissant dedans? Bien, je participe aux dépenses. Fait que là, je paye les salaires. Fait qu'une compagnie qui n'a pas de bénéfices, bien, vous, dans le fond, tu participes au développement, tu participes au salaire. Tu payes les salaires des gens, tu payes les salaires de... Tu as les actifs qui sont là, le développement, puis tu n'as pas de bénéfices encore. Parce que tu espères plus tard que la compagnie fasse des bénéfices. En faisant les bénéfices, la compagnie va augmenter sa valeur. La valeur de la compagnie est plus chère, divisée par action, donc tes actions sont plus, ils valent plus cher.
Effectivement, c'est effectivement. Ça. Quand, avec la gang de Cobalt Investissement, jasez-vous un peu de la récession? Est-ce que ça a un impact sur vos choix quand vous faites des transactions?
Oui, puis en même temps, c'est que faut penser que ce que moi et toi, on sait présentement, c'est tout déjà pricé dans le marché. Alors, la récession qui s'en vient, bien, il y en a déjà un bout qui est pricé dans le marché.
OK.
Puis là, il faut comprendre que aussi. Il y a des gens qui pensent tout le temps, des fois, ça va crasher, ça va ou ça va monter. C'est quoi qui fait que ça monte ou que ça descend? Tu sais? Bon, bien ça, c'est quand que les actions se transigent, ça prend un acheteur-vendeur. Quelqu'un qui en a des actions veut s'en départir, puis quelqu'un qui n'en a pas qui veut en avoir. Puis là, c'est qui gagne là-dedans? Autrement dit, on a un momentum d'un bord ou d'un autre côté. Ça veut dire qu'il y a plus de vendeurs ou il y a plus d'acheteurs. Puis pour que ça descende, bien, il faut que les porteurs de l'action, des titres, veulent les vendre. Puis là, s'ils vendent en panique, là, ce que ça fait, c'est que là, les vendeurs courent après les acheteurs en descendant. Fait que là, ce que ça fait, c'est que ça crée des mouvements boursiers vers le bas. Puis ça, habituellement, bien, ça arrive s'il y a des événements, mettons, qui surprennent le marché. Comme là, présentement, là, ce qu'on sait, ce qu'on parle, c'est déjà pricé dans le marché. Fait que s'il n'y a pas d'événements négatifs qui arrivent nécessairement, bien, tu n'auras pas de panique nécessairement boursière. Après ça, bien là, il y a des évaluations. Il y en a qui... Puis là, il faut faire attention parce que les réseaux sociaux, là, ça, c'est bon. Tu sais, il y a toujours deux côtés de la médaille dans des choses. Puis il ne faut pas être trop... Il n'y a pas d'absolu dans les deux côtés. Mais il faut faire attention parce que là, il y a une vague de la crypto. Là, il y a des gens qui disent, qui gèrent des réseaux sociaux, qui disent que là, il n'y a plus de valeur à la bourse. Mais ce n'est pas vrai. Là. C'est capable de calculer la valeur des entreprises. Puis là, présentement, bien, si on regarde le SP500, au niveau qui est placé présentement, il est dans un niveau neutre. Il est à un court bénéfice. Si tu prends toutes les compagnies, mettons, du SP500, là, qu'on prend les 500 meilleures entreprises puis qu'on fait une moyenne, ben, il y a un court bénéfice à ça. Le court bénéfice est à peu près à 21,5 présentement, qui est un petit peu cher. Mais on est placé côté technique présentement dans un milieu de range. Là. Il y a comme une moyenne mobile qu'on appelle là, les 100 derniers jours de transaction.
Ouais.
On est directement dessus, là, à 3960, là, on est directement dessus. Là, présentement, le marché travaille de côté. Là, on pourrait avoir un mouvement de 10-15 % à la baisse. Puis on pourrait avoir un mouvement aussi de 10-15 % à la hausse parce que les fluctuations boursières, ça va avec certains événements. Mettons qu'on arrive et que la Fed dit le prochain meeting que finalement, ils ne montent plus les taux d'intérêt ou les diminuent, mais là, ça va peut-être donner un engouement au marché. Puis s'ils continuent à les augmenter, bien, à un moment donné, mais là, ça va causer justement un mouvement boursier vers le bas. Puis c'est comme ça qu'on a nos fluctuations boursières. Si on prend le SP500 présentement puis on le met, mettons, à 18 de cours bénéfices, qui devrait se trader à peu près habituellement entre 15 et 18. Ça, ce que ça veut dire, là, c'est un multiple. Ça veut dire qu'on achète environ, on paye 15 fois le bénéfice du SP500. Autrement dit, c'est 15, on paye 15 $ pour avoir une pièce de bénéfice. C'est ça que ça veut dire. Si on le met à 18, admettons, on tomberait à peu près à 3 300. Puis si on le mettait à 15 présentement, on tomberait à 2 800. Fait que là, ça, c'est des niveaux qui seraient normaux d'aller, mais à 2 800, je pense qu'on a une drop de 25 %. Fait que c'est quand même beaucoup.
Oui.
C'est juste que là, présentement, mettons, les gens qui investissent présentement, qui achètent là, le marché ou qui achètent des fonds, là, ils payent le marché qui est sensiblement un petit peu dispendieux, mais il n'y a pas nécessairement de panique à avoir. Là, pour propulser vers le haut, ça prendrait quoi? Bien, ça prendrait vraiment des bonnes nouvelles puis des bénéfices en augmentation. Mais là, ça se peut qu'on s'en aille en bénéfices en décroissance parce qu'à cause de la récession. Si le gouvernement commence à ralentir un petit peu l'économie, c'est que là, le bénéfice des titres, au lieu de s'en aller en croissance, bien là, il pourrait peut-être stagner, être neutre pendant un certain temps ou s'en aller peut-être en légère décroissance. Fait que là, c'est pour ça qu'on pourrait avoir un marché de côté pendant un certain temps ou avoir une légère baisse. Puis ça serait des choses qui sont normales.
Pour un day trader, des fois, les émotions sont à gérer. Toi, tu as des étudiants, des fois, qui rentrent, ils ont un certain montant à placer et tout ça. Tu sais, je les prends en exemple actuellement parce que ça fait la manchette. Là. Il est arrivé un incendie absolument épouvantable à Montréal avec Airbnb. Et là, la mairesse de Montréal, plutôt que de blâmer les gens qui ont fait des inspections de bâtiments, blâme la compagnie Airbnb parce qu'eux autres, ils avaient loué cet appartement-là. Alors que si Airbnb n'était pas là, il y aurait eu d'autres personnes qui seraient décédées. Mais là, ils sont en train de tout mettre ça sur Airbnb. Là, hier, il y avait un papier comme quoi Airbnb servait à des proxénètes, de la prostitution juvénile. Mettons qu'un day trader là, qui commence et qui dit « Attends un peu, moi, Airbnb, c'est une entreprise que je trouvais qui avait bien du bon sens, mais avec tout ce qui se passe dans le journal de Montréal, jamais que j'embarquerai là-dedans. » Faut que tu laisses tes émotions de côté parce que les journalistes ne savent pas toujours ce qu'ils font, là. Mais le day trader, lui, il doit être à l'affût de ça, de ses émotions, en disant, t'as peu, là, c'est localisé uniquement à Montréal, pas sur la planète.
Non, c'est ça. Puis quand tu parles tantôt de day trading, c'est que ça, c'est des gens qui vont profiter de des mouvements rapides. Autrement dit, nous autres, ce qu'on veut, c'est ça, des événements comme ça, mais on veut pas que des événements nécessairement négatifs. Là.
Ouais.
On veut quelque chose qui arrive pour faire bouger le titre. Parce c'est que ça. Là, il y a des gens qui, autrement dit, qui vont réagir en vendant ou en achetant le titre. Puis là, nous autres, on essaie de profiter de ce mouvement-là. Parce que des fois, tu as des titres qui ne bougeront pas pendant un certain temps. Puis là, il arrive une nouvelle ou un événement économique comme les earnings. Puis là, ça fait bouger le titre. Là, ces nouvelles-là, bien là, ce qu'on veut faire, c'est de profiter du mouvement court comme ça. Mais quelqu'un qui veut investir à long terme, bien là, ce que ça va faire, c'est que les fanfares, autrement dit, du marché, là, c'est que tous les échos puis tout ce qui se passe à gauche et à droite dans une semaine ou deux, bon, bien là, ce que ça fait fluctuer, mais ça donne la chance aux investisseurs qui sont plus rationnels de calculer, autrement dit, leurs entreprises. Puis c'est ça qu'on fait avec l'analyse technique fondamentale. C'est qu'on essaie de déterminer les niveaux où il y a des transactions, parce qu'on est capable de voir sur les graphiques les niveaux où il y a des revirements de prix. Puis on est capable de calculer dans ces niveaux-là, mettons, notre titre, il vaut combien. Puis quand on arrive dans ces niveaux-là, on est capable de faire nos points d'entrée qui sont calculés. Fait que ça nous donne des meilleures prises de position à des endroits où il peut y avoir des revirements. Puis c'est avec ça que, justement, on va chercher le maximum des opportunités qui vont arriver dans le marché.
OK. As-tu des étudiants qui se présentent avec Cobalt Investissement, qui font les formations, puis une fois que les formations sont terminées, ils ont un certain montant d'argent, commencent à placer et commencent tout de suite à tirer un revenu puis sont capables de vivre de ça?
Bien, il y en a qui le font quand même assez rapidement.
Il faut être confiant, sacrifice.
Oui, puis il faut avoir une certaine expérience aussi.
Ouais.
Fait que c'est ça qu'on nous autres, on a mis en place. C'est qu'on a mis en place justement cette formation-là pour aider les gens à gagner de l'expérience rapidement. Mm-hmm. Comme là, demain, j'ai une formation toute la journée qui est propre au day trading.
Okay.
Je montre aux gens comment utiliser la plateforme. Puis là, je vais montrer plusieurs stratégies. Là. On va arriver, on va calculer un titre, on va regarder les mouvements boursiers parce que quelqu'un qui ne l'a jamais vu bouger les titres en temps réel avec les chandelles qui bougent puis les graphiques qui... va être perdu là-dedans. Comme moi, la première fois que j'ai tombé avec ça, j'étais tout seul à la maison, puis j'essaie de comprendre tout ça moi-même. Tandis que là, ce que je fais, c'est que je montre différents. On a comme un plan à suivre de cours, dans le fond.
Ouais.
Puis là, je vais montrer un titre qui ne bouge pas beaucoup, un titre qui bouge beaucoup, un titre qui n'a pas beaucoup de transactions dedans, un titre qui en a beaucoup. Les titres volatiles, c'est quoi comparer, puis comment les mouvements se passent avec les indicateurs qu'on utilise. Puis là, les gens, ils prennent ça en considération, puis après ça, ils font leurs transactions en fonction d'eux. Parce qu'il y a beaucoup de transactions qui sont faites automatisées à cette heure avec des algorithmes. Fait que quand je parlais tantôt de la moyenne mobile, c'est pas les indicateurs techniques qui donnent les signaux. Puis ça, je le sais, là, il y a des gens qui font du trading, qui nous écoutent présentement, qu'eux autres se disent « Bon, ben moi, j'utilise cet indicateur technique-là, puis ça me donne un signal. » C'est pas ça qui donne un signal. Le signal est donné par un mouvement de prix. Il est donné par quelque chose qui va se passer. Un événement, comme je te dis, une nouvelle, un événement. Puis les indicateurs techniques, ça nous aide à nous situer où ce qu'on est rendu par rapport à. Ça veut dire que des fois, on a des mouvements qui sont survendus, des fois, ils sont surachetés, des fois, ils sont dans une place où il peut y avoir un changement de direction majeur avec ça. Donc, on veut utiliser d'autres moyennes mobiles ou d'autres indicateurs. Puis, ce qu'on fait, c'est que les gens, eux autres, avec le montant, puis j'explique aux gens de commencer, c'est important pour les gens qui font des transactions actives, de se pratiquer avant. Parce que c'est comme des skills. C'est comme si je te disais, mettons, Yannick, que je te montre sur un tableau comment jouer au hockey, ligne bleue, ligne rouge, lancer. Puis là, je t'embarque avec nous autres, puis viens jouer une game, puis là, on s'en va dans le coin, puis on va frapper. L'expérience n'est pas là.
Ouais,
à un moment donné, tu vas te mettre dans une situation où tu ne seras peut-être pas confortable. C'est la même affaire avec ça. Fait que là, ce que les gens peuvent faire, c'est que en faisant ce genre, parce qu'il y a des plateformes qui existent pour ça, là, on est capable d'avoir des comptes qu'on appelle démos avec de l'argent de Monopoly. Là, les gens sont capables de voir...
Comme des simulations.
C'est ça. Comment ils sont habiles? Sont-ils habiles? Puis comment ils gèrent, autrement dit, leurs émotions aussi? Parce qu'il y a des émotions avec ça. Puis, dans le fond, parce que notre day trading, notre trading actif, là, le titre, là, il ne changera peut-être pas de valeur en 3 mois, là, mais il va fluctuer peut-être de 30 %. Fait que c'est quoi qui fait la différence? C'est ton timing d'entrée. Mm-hmm. Tu sais, c'est pas le titre en tant que tel, c'est le timing d'entrée parce que ce qui se passe avec la bourse. Fait que c'est ça qu'on essaie de faire dans la transaction active, c'est on choisit les titres ou les produits financiers qui sont aptes à ça. Mais après ça, c'est vraiment d'être bien timé. Fait que là, quelqu'un qui prend le tour, ben là, il est capable de... C'est comme un job normal, dans le fond. Ça prend des habiletés pour le faire. Puis l'investissement boursier pour le long terme, bien ça, c'est de connaître justement les bons produits, les bonnes compagnies, mais encore une fois, qu'être capable de les évaluer. Puis dans certaines situations, bien là, la compagnie, elle va être intéressante parce qu'elle va être un cours qui va être justement peut-être sous-évalué. Puis là, avec ça, bien, on est capable de calculer dans le futur que si ça va bien avec les bénéfices futurs, les prévisions, puis si tout est dans la normalité, bien ça devrait valoir tant.
OK. La majorité des traders, est-ce qu'ils cachent la même journée ou bien des fois, ça peut être sur 2-3 jours le trade?
Oui, 2-3 jours, ça, j'en fais souvent des comme ça. C'est ça qui est le plus payant un petit peu aussi, qu'on appelle du swing trading.
Ouais.
Le day trading, là, c'est vraiment de capitaliser sur des mouvements intra-séance. Habituellement, là, le day trader, ce qu'il va faire, il va faire une transaction, puis il va fermer la transaction après avoir fait un profit intéressant dans le mouvement que le titre ou la bourse va nous donner. Puis ça peut durer. Des fois, tu sais, je fais des transactions, ça dure 15 secondes. Des fois, il dure toute la journée. Des fois, il dure 2-3 jours. Ça, le 2-3 jours, c'est souvent, il va arriver, mettons, un événement économique.
Ouais.
Puis là, le titre va décoller. Puis là, il y en a peut-être pour 3 jours à se faire acheter par les institutions financières, monte à un autre niveau. Puis on s'aperçoit qu'à ce niveau-là, à un moment donné, les acheteurs vont arrêter. Fait que là, avec nos indicateurs techniques, on est capable de le calculer. Puis là, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de rentrer puis sortir aux meilleures places qu'on est capable de calculer. C'est sûr que ça n'arrive jamais au plus bas puis au plus haut. Tu sais, quelqu'un qui fait ça, qui vous dit qu'il fait ça constamment, c'est impossible. Tu sais, mais on est capable de calculer un mouvement. Je vais donner un exemple. Un titre va faire un mouvement. Puis il va faire peut-être 15-20 % sur une période de 2-3 jours, une semaine, parce que ça arrive quand même assez régulièrement. Bien, nous autres, on va aller chercher peut-être 5, 7, 8, 10 % sur ce mouvement-là.
OK.
Fait que là, on va aller capitaliser là-dessus, puis après ça, bon, on cherche un autre mouvement qui va se faire sur un autre titre.
OK. Puis un day trader, là, quelqu'un qui suit une formation, ça y prend comment pour partir? Il y en a, moi, dans mon cas, moi, j'ai commencé avec très jeune, là, mais avec un 500 $, un 1000 $, un 2000 $, mais je fais pas ça de ma vie. Puis souvent, ce que je fais, c'est des placements à long terme. Je me dis, même si l'action va pas super bien, tant que je l'ai pas retiré, je perds pas d'argent. c'est comme ça que je vois.
Les placements à long terme, c'est comme ça qu'on...
Puis j'ai commencé avec des entreprises que je connaissais, tu sais, Jean Coutu, Couchetard et tout ça. C'est des entreprises de chez nous, il me semble de mémoire Cascade dans le temps.
Cascade.
Mais c'était des entreprises de chez nous qui fonctionnaient très bien. Puis avec le temps, tu sais, ces placements-là ont évolué. On commence avec quoi? Tu sais, la majorité de tes étudiants commencent avec quel montant?
Ben, habituellement, là, moi j'ai commencé, j'avais 1500 piastres.
OK.
Puis comme toi, 500. Il faut commencer à quelque part, mais on a moins de marge de manœuvre avec 1500.
Ben oui.
C'est normal. Dans le trading actif, les comptes de courtage, dans le fond, la réglementation, c'est que tu as le droit à une marge de manœuvre jusqu'à 3 fois. Il y a des titres qui sont 3 fois marginables qui appellent. Ça, faut comprendre comment ça fonctionne. Je vais vous donner un exemple. Mettons que vous avez 1000 $. Bon, ben, la plateforme va vous donner la possibilité d'acheter pour 3000 $ de Apple. Bon. Le pourquoi, c'est qu'ils vont se backer sur la solidité d'Apple, un peu comme un prêt hypothécaire. Tu sais, le prêt hypothécaire, il se back, il passe 80 % mettons, de l'argent parce qu'il se back sur la valeur de maison. Fait quand les titres sont plus solides et qu'ils ont du fondamental, ça, c'est géré par dans le fond, c'est le marché qui dicte ça un petit peu. Là.
Mm-hmm.
Apple, il va être marginable 3 fois, Microsoft 3 fois, mais il y a des produits, des titres qui ne le sont pas. Fait que là, ça prend 100 % de ton argent pour les acheter. Quelqu'un qui veut faire un salaire, ben, ça dépend. Ça va dépendre des habiletés, ça va dépendre de ce qu'il va trader. Parce que si tu trades des affaires qui sont hyper volatiles, des titres dans une journée, là, comme aujourd'hui, je peux sortir une liste de 15-20 titres assez facilement de titres qui font du 50-60 %. Là. Il y en a tous les jours, là, des nouvelles sur des compagnies de pharmaceutiques qui sortent.
Ouais.
Peu importe, là, comme Alibaba aujourd'hui, juste Alibaba a fait un mouvement à peu près 15 %. C'est quand même une grosse compagnie.
Alibaba, 15 %?
Ouais, 15 % aujourd'hui, fait que c'est quand même beaucoup. Il y en a une, j'ai regardé tantôt, est à 50 quelques % une compagnie pharmaceutique, justement, une phase 1, là, qui a sorti un... Ça dépend. C'est sûr que ces titres-là, quand ils sont plus volatiles, quand il y a des mouvements comme ça, il y a des hausses de prix. Là, il faut comprendre comment les trader. Mais quelqu'un qui va utiliser ces produits-là pour trader, ben lui, il a plus de chances de faire de plus gros mouvements, justement, de plus de... Parce que la volatilité, ça va avec l'argent. Fait que là, ça dépend du montant qu'on met. Mais ça, c'est, je l'explique dans la formation comment le faire. Quand les gens, là, parce que je passe une partie de la formation, puis là, j'arrive à comment faire des objectifs en salaire. Mm-hmm. Fait, je vais vous donner un exemple. Il y a 250 jours de trading dans une année. Puis si tu fais, mettons, 100 $ par jour, par tranche de 100 $ de profit, dans le fond, ça fait 25 000 par année. Fait que quelqu'un qui fait 400 $ par jour sur 250 jours de trading, bon, ben, on va faire environ un salaire de 100 000 par année. Bon, fait que là, 400, c'est-tu une transaction qui donne 400 ou tu peux en faire 20 qui donne peut-être 50 piastres? Tu comprends ce que je veux dire?
Oui.
Fait que là, ça dépend du montant qu'on veut investir, puis ça dépend de le genre de stratégie, puis ça dépend de la machine aussi, parce qu'il y a des transactions que je fais avec ma plateforme Interactive Broker que je ne serais pas capable de faire avec la plateforme de Desjardins. Fait que ça, c'est des choses, puis il y a des produits financiers aussi, comme les futures puis les options, qui ont une extrême volatilité qui sont encore plus élevés avec des effets de levier. Fait que là, ça va dépendre du montant d'argent qui va être investi même. On va donner un exemple. Si quelqu'un place 5 000, puis il fait une journée, tu sais, dans une journée, là, un mouvement important, on est capable d'aller chercher entre 2 et 5 % mettons, assez constamment dans les transactions qu'on fait. Puis il faut calculer là-dessus que c'est pas toutes les transactions qui fonctionnent. Fait que là, on essaie d'avoir environ, nous autres, 2 sur 3, là, c'est 7 sur 10. Quand tu pars ton trade, il y en a 7 qui fonctionnent. Puis sur les 7 qui fonctionnent, ça ne veut pas dire que tu fais 5, 10 % tout le temps.
C'est ça.
Tu vas arriver, tu vas faire juste un 1 %. Puis là, il va y avoir une autre transaction, tu vas faire moins 1. Puis là, ceux-là, ils s'éliminent un petit peu. Puis là, tu en as 2, 3 qui finissent par donner ce que tu penses que ça a donné. Puis là, ça va faire justement la production de revenus là-dessus.
OK.
Mais si, on met un montant de 5 000 $ puis on fait 1 %, bon, mais là, si on fait 10 %, ben, ça donne 500. Si on fait 1 %, ben, ça va donner 50 piastres. Puis là, ben, si quelqu'un fait, mettons, à répétition, rentre son 5 000, sort son 5 000, rentre son 5 000, puis est capable d'arriver à la fin de la journée et de faire 10 transactions, mettons, de 50 piastres de profit, mettons, sur son trade, bon, ben, ça va donner 500 piastres, dans le fond, dans la journée. Mais ça, il faut être habile.
Il faut être habile, puis il faut être conscient aussi que c'est pas parce qu'aujourd'hui, ça a bien été que demain,
toutes
ça va
aller toutes les journées sont différentes.
Exactement.
Sauf que tous les mouvements boursiers sont similaires.
Ouais.
Ce que je veux dire par là, c'est que dans notre façon de travailler, c'est qu'on va utiliser souvent les mêmes indicateurs. Puis les mouvements de prix à la bourse, là, t'en as trois. Là. C'est de côté, en haut, puis en bas. Ça s'en va pas vers la gauche, ça s'en va toujours vers la droite.
Exact.
Fait que là, les mouvements, quand ça change de direction, c'est de comprendre c'est quoi qui fait changer de direction, comment tu le vois venir, puis de comprendre c'est quoi tu trades. Moi, je trade souvent la même affaire. Là. Tu sais, les indices boursiers, là, ça sert à ça. Là. C'est qu'on fait quelqu'un qui va avoir de la constance, va souvent trader dans les mêmes affaires. J'utilise les mêmes compagnies.
Je trouve ça intéressant. Je voulais te poser cette question-là, puis j'étais dans ma voiture là, peut-être une semaine, deux semaines, puis j'écoutais un podcast qui parlait justement de trading, puis il parlait de Twitter. Tu sais, ouais. Twitter a changé de propriétaire.
Ouais.
Twitter n'a jamais fait une crise de scène.
Non,
ça avait une valeur boursière. Puis, ouais.
Grosse capitalisation.
Ben, oui.
Quand tu regardes le book value,
mais c'était basé sur absolument rien. Là, tu as Elon Musk qui arrive là, qui crise 80% des employés dehors.
Ouais.
Twitter est encore là, semble continuer à progresser. Tu te dis, mais qu'est-ce que les employés faisaient? Ouais. On ne sait pas.
Non, c'est ça. Il y a plein de compagnies.
Il était là, il était sur le payroll. Puis là, j'ai entendu l'Américain, je ne me rappelle pas de son nom, mais dire que Twitter voit à peu près le quart de ce qu'elle valait avant. Mais t'as peu, là. C'est parce que lui, il est en train de rendre ça rentable.
Ouais, je pense qu'il a manqué son coup avec celle-là pour le moment, là, mais...
Mais il l'a échappé, là.
Ouais. Ben, c'est parce que là, Twitter s'en allait nulle part.
Exact.
Là, lui, je pense qu'il aimait le Twitter parce qu'il tweetait. Là.
Ouais.
Ça, c'est le cas. Là, de... Ça, c'est un investisseur là, moyen, des fois, qui va dire « J'aime le produit, j'achète la compagnie. » Tu sais, c'est une façon de penser, mais il y a plus que ça. Là.
J'aime le propriétaire, j'aime Twitter, j'achète la compagnie.
Ouais.
Là,
il s'est rendu compte, à un moment donné, il ne voulait plus l'acheter. Il s'est rendu compte qu'il y avait plein de faux comptes.
Ouais.
Là, ils ont été obligés de l'acheter parce que, dans le fond, j'ai oublié le nom, là, mais la réglementation, là, sont rentrés là-dedans.
Ouais. Mais c'était pas 44 milliards, je pense.
On va faire de même. C'était, ben, tu sais, tu t'attends de l'action. Fait que là, l'action s'est promenée là,
pendant ce temps-là.
Mais ça, là, c'est parce que ce que ça fait, là, c'est que ça fait juste... c'est des échos, ça. Puis les gens qui sont investis là-dedans ou qui trade ça, ben là, il y en a qui perdent de l'argent là-dedans. Là. Il y en a qui en font, mais il y en a qui en perdent aussi.
Ouais.
Fait que Elon Musk, c'est correct, mais lui, ce qu'il fait, c'est que, en fait, comme que je te disais tantôt, il y a des compagnies qui peuvent être manipulées. Là.
Oui.
Mais lui, dans le crypto, là, il en fait des affaires de même. Là.
Oui.
Alors, ben, c'est quand il a parti son affaire de Shiba Coins, à un moment donné, mm-hmm. là, le Dogecoin, c'est ça, c'est des échos de marché. Puis les gens, souvent, ben, c'est les investisseurs qui se font prendre un petit peu là-dedans. Mais comme Twitter, comme tu parlais tantôt, c'est Twitter, c'est pas une compagnie qui est rentable.
En tout.
Fait que trader ça, c'est correct, ça a des mouvements. Mais investir là-dedans, quand vous faites quand les gens font l'investissement, moi, ce que je dis, là, c'est que si tu es capable de trouver 100 titres qui est meilleur que ceux-là que tu es en train de regarder, mais pourquoi tu investirais dans celui-là? Fait que c'est souvent, la réponse est oui, parce que 100 meilleurs titres, admettons que Bombardier, on est capable de trouver ça. C'est juste que Bombardier, dernièrement, il y a eu une belle montée là, qui s'est passée parce qu'il y a eu un changement de CEO. Puis, c'est pas nécessairement une mauvaise compagnie, mais côté investissement, c'est que tu vas aller chercher de la rentabilité, tu veux profiter. Puis on ne sait jamais, je ne peux pas vous dire en 2023 c'est quelle compagnie qui va pousser le plus parce que on va le savoir à la fin de l'année. Il va arriver des événements de un moment donné. Puis que, regardez, là, juste tout le monde, ses réseaux sociaux. À un moment donné, j'ai regardé une vidéo. Là, je disais sur les réseaux sociaux dans notre organisation, nous autres, puis sur mon Facebook, dans le fond public, j'ai que je surveillais les niveaux intéressants d'Nvidia. Puis là, il y en a un qui a mis là-dessus, il dit « Pourquoi acheter une compagnie de même en free fall? » Puis nanana, mais la compagnie revirait de bord, paf, et remontait comme un V. Là. Mais pourquoi? C'est parce que ce qui s'est passé, c'est qu'elle a été trop haut à un moment donné, elle a été trop bas. Puis là, le momentum, c'est parti vers le bas. Là, un moment donné, c'est ce que ça fait. Bien, le momentum, c'est comme une alarme d'incendie maintenant. Là.
Ouais.
Tu allumes ça, puis là, les gens, ça court vers dehors. Ça ne voit pas de feu, mais ça court parce que tout le monde court. Puis là, ça a changé de bord parce qu'il y a eu un changement de sentiment. Puis Meta, ça a été pareil. Facebook, ça a été pareil. Fait que c'est de comprendre un petit peu. Là,
c'est ça que vous surveillez.
C'est des mouvements-là, c'est ça. Fait que quand il arrive des mouvements sur ces titres-là ou sur d'autres titres, on essaie de calculer, voir les niveaux où ce que ça peut changer de direction. Puis donc, on essaie d'évaluer. Puis dans le fond, une compagnie, là, c'est pas nécessairement son fondamental qui le fait monter parce que ça prend des acheteurs, encore une fois, pour le faire monter. Ça prend des gens qui veulent avoir l'action. Mais le core de ta compagnie, tu sais, des fois, là, comme on parle, c'est que en 2022, là, la bourse a descendu presque 30 %. Il y a des compagnies qui ont fait 30 par l'autre bord. Pourquoi? Parce que le fondamental était fort, puis eux autres continuaient à bien performer, puis les acheteurs ont continué à acheter le titre, puis les vendeurs n'en sont pas départis, puis ça continue à faire monter les titres.
Guétan Royer, tu as parlé de crypto-monnaie tantôt, puis ce matin, je regardais encore, tu sais, il faut suivre l'actualité,
ben oui.
Je regardais encore une pauvre dame qui était victime d'un individu prétendait être dans les crypto-monnaies puis qui faisait de la publicité sur Facebook. Elle a dit, tiens, un moyen incroyable de faire de l'argent. Elle a décidé d'embarquer avec. Il a procuré un tableau. Elle a commencé à investir. Puis là, le tableau, les chiffres qu'elle voyait, c'était incroyable. Puis là, elle continue d'investir. Puis à un moment donné, elle dit, ben je vais retirer mon argent. Le gars, il dit, t'es pas retirer ton argent. Ça va te coûter une fortune. Tu vas devoir payer de l'impôt. Ça te prendrait tel montant pour pas être pénalisé. Elle décide de réinvestir de l'argent là-dedans. Finalement, elle se retrouve le cul à l'eau, là, à plus de maudite scène.
Ah ouais,
mais encore une fois, ça. Au lieu de parler du fraudeur puis de cette dame-là qui est un peu bizarre là, dans sa façon de faire, on met encore ça, l'accent sur les crypto-monnaies. Alors que les crypto-monnaies, là, ils n'ont rien à voir là-dedans. Là.
Ben ça, tu peux en avoir. Tu sais, des fraudeurs, il y en a dans le marché boursier qui s'est réglé
ben oui.
aussi. Là. Fait que c'est important de jamais faire un chèque personnel à un représentant. C'est, mettons que si quelqu'un fait affaire avec... le groupe Investors ou Industrie Alliance, ben,
ouais.
faites pas le chèque aux représentants. Là. Faut informez-vous avant. Là. Il y a beaucoup. Écoutez, moi, quand j'étais représentant financier, là, le nombre de fois que je suis rentré dans des maisons de des gens que je connaissais pas pantoute, là, qui me faisaient des chèques, pas à moi, là, puis je partais avec ça. Puis là, je me disais, si j'étais quelqu'un de pas correct, là, je partirais avec des chèques de même.
Ben oui,
les gens qui font confiance aveuglément.
Ouais.
Souvent, ce qu'on essaye de faire, c'est d'avoir une référence. Là. Tu dis à ton chum, Gaétan, il va aller te voir, puis tu peux y faire confiance. Fait que là, t'as un point de référence.
Exact.
Mais c'est juste, tu sais, c'est comme je disais tantôt, t'achètes pas des choses, puis vous devez faire quand même une partie de devoir. Là.
Mm-hmm.
Souvent, des gens, c'est de valeur, mais je le dis dans mes formations. Ceux qui perdent de l'argent parce qu'ils achètent n'importe quoi puis qu'ils s'informent pas, ben dans un sens, le blâme, faut en prendre une partie aussi. Là.
Parce que c'est d'une tristesse, la dame, elle va être toujours retournée sur le marché du travail alors qu'elle était à la retraite. Mais moi, j'ai Caro ici d'Industrielle Alliance qui était collaboratrice avec nous autres il y a de ça quelques années, qui mentionnait régulièrement qu'elle allait rencontrer des clients. Puis là, ils s'étaient entendus pour un placement. puis elle se ramassait avec un chèque qui était à son nom. Elle était obligée de dire, mais madame, il ne faut pas me faire un chèque à mon nom. C'est au nom d'Industriel Alliance.
Ouais.
Les gens font confiance facilement. Mais moi, c'est plus le fait qu'on a encore mis ça sur le dos des crypto-monnaies. Mais la crypto, alors que
ce qui arrive, c'est que ce n'est pas réglementé.
Ouais.
Ça en est un problème aussi. C'est que les gens qui sont là-dedans, il y a comme il y a une certaine partie de la population qui s'est comme un peu rebelle contre la société puis le gouvernement et tout. Puis c'est correct aussi. Là, c'est bien de questionner tous les règlements. Puis là, ce qui s'est passé avec la fraude, pas la fraude, dans le fond, la banque de Silicon Valley qui, autrement dit, eux autres ont risqué un petit peu plus puis ont été pris en défaut. Puis là, il y a un bank run qui appelle. C'est que là, tout le monde, parce que les réseaux sociaux, c'est ce que ça se fait. Là. Quelqu'un essaie d'aller retirer de l'argent, mettons, à la caisse populaire demain puis il n'est pas capable, ça va faire le tour vite, là. Fait que là, ce qui va se passer, c'est qu'il y en a plein qui vont arriver à la caisse et dire « Hey, j'aimerais ça avoir mon argent, moi, je peux-tu? » Puis là, d'un coup, ça part en vrille de même, ça va vite. Mais, tu sais, le gouvernement est en arrière un peu pour backer ce système-là un petit peu. La crypto, là, il y en a qui ont dit « Bien là, vous voyez ce qui arrive avec les banques, il n'y a rien de safe. » Fait que là, la crypto, dans le fond, c'est une réponse à ça.
Ouais.
C'est parce que la crypto, l'affaire là-dedans, c'est que c'est pas réglementé à
pantoute.
Là. C'est là, ça peut tomber à zéro, puis il n'y a pas personne qui va vous garantir le dépôt là-dedans. Puis il y en a qui disent, ben non, ça ne peut pas descendre à zéro, c'est pas vrai, parce qu'il y en a une crypto que je l'ai vu aller, moi, live en 15 secondes, ça a parti de. T'en souviens, là, c'est l'affaire de l'émission à Netflix, là, que ça a passé, là, que ça a fait bien des manchettes, là. Il fallait tuer du monde à toutes les émissions. Là.
Ouais, c'est ça.
Il avait mis une crypto comme ça, puis elle, je l'ai vu live partir, là, elle tombait à zéro d'une shot. Pouf!
Ah ouais!
Mais t'as plus d'acheteur d'une shot. Puis là, le prochain acheteur, mettons, il est à 0,000 une zen. Puis là, le vendeur, lui, il veut vendre. Il vend comment? Il paye sur le piton marché, mettons. Je vends moi ça tout de suite. Mais ben là, il est parti de 50$, puis descendu à 0,1 cent. Puis là, tu vois une chandelle dans l'écran. Puis là, d'un coup, ben ça fait des. Tu sais, fait que c'est des choses comme ça. Fait que la crypto-monnaie, c'est une autre affaire aussi. C'est que c'est une nouvelle technologie. Là, on s'en vient. On a un spécialiste de la crypto avec nous autres qui fait affaire depuis longtemps là, avec Valeo X.
OK. Parce que le Bitcoin, tu as pris un peu de regain.
Oui. Ouais, le Bitcoin, c'est différent que toutes les autres cryptos, disons. Là.
Okay. Pourquoi?
C'est la première. Ben, c'est sa façon de travailler. Son édition limitée. Tu sais, une monnaie que tu peux faire de la monnaie, autrement dit, d'en créer à profusion comme tu veux, bien ça risque un jour de rien valoir. C'est comme l'argent papier qu'on a présentement.
Ouais.
Là, ça vaut rien, là, l'argent papier. C'est basé sur une confiance que les autres pays ont en le PIB canadien.
C'est ça. Tandis que les bitcoins, il y a un certain nombre, puis on n'en ajoutera jamais.
C'est ça, on n'en ajoutera plus jamais. Puis ensuite de ça, le bitcoin, lui, sa façon de quand il transige, lui, il prend de l'énergie. Quand ils font leur bloc de transaction, là, pour que la transaction soit cryptée, autrement dit.
Ouais.
Bon, mais là, en prenant cette énergie-là, autrement dit, ça ajoute à la valeur de la crypto-monnaie. Fait, ce que ça fait, c'est qu'à toutes les fois qu'il y a des transactions, mais là, il y a un bloc d'énergie qui périt, qui consomme, qui fait en sorte qu'il gonfle de valeur. C'est comme Julien m'avait dit que c'est comme un genre de grosse batterie là, que t'accumules de l'énergie, mais il y a une édition limitée. Fait qu'encore une fois, est-ce qu'il y a de la valeur? Une monnaie ne peut pas être forte puis être disponible en grande échéance en même temps. Fait que c'est soit que tu as les deux. C'est pour ça l'or, dans le fond, c'est que l'or, on le sait comment il y en a dans le sol. C'est limité. Puis c'est pour ça que ça a une valeur plus que, mettons, le fer, que ça, tu peux en trouver partout, tu peux en produire.
OK. Gaétan Royer de Cobalt Investissement, on n'a pas le droit de donner des conseils de placement à la bourse, mais j'aimerais ça savoir ce que toi, tu vas suivre. Là, qu'est-ce qui devrait performer en 2023?
2023, le reste de 2023, c'est ça. Mais là, je fais attention parce que, comme tu disais, là, mon droit, dans le fond, j'ai le droit de suggérer, mais je n'ai pas le droit de conseiller les gens.
Juste d'y aller dans le sens où voici ce que moi, je vais suivre pour 2023.
C'est ça. Ben, moi, je suis tous les secteurs.
Ouais.
C'est juste que je peux pas vous dire c'est lequel qui va performer le plus.
Mm-hmm.
Et là, on est en train de regarder le secteur de la télécommunication. On a fait une entrée là-dedans dernièrement. Pourquoi? Parce qu'il avait descendu à un certain niveau. Puis là, il y avait une valeur intéressante. Il y avait Meta qui avait un co-bénéfice là, qui était en bas de 10 à un certain moment donné. Verizon qui est bien placé aussi, un co-bénéfice à 7. Puis je vais vous donner un exemple comme Verizon, la façon qu'on l'a calculé. Puis là, je ne veux pas que personne aille acheter ce titre-là parce que j'en parle, parce que vous devez faire vos devoirs, parce qu'il peut arriver que ça y aille par en bas à partir d'aujourd'hui. C'est que là, il y a un co-bénéfice qui est à peu près à 7, puis il y a un 7% de dividende accroché après ça présentement.
OK. Prix-là. Fait que je paye 7$ pour avoir une pièce de
earnings par année.
Par année.
Fait que là, ça veut dire que votre investissement, dans le fond, est rentable après 7 ans.
Exact.
Grosso modo, là, si on achetait une compagnie de cellulaire aujourd'hui, qui est Verizon, ben là, on paye 7 fois ses bénéfices avec le prix de la bourse présentement, parce qu'on divise, la valeur complète de la compagnie divisée par le nombre d'actions en circulation.
Ouais.
Là, ça coûte à peu près 38$. Bon, puis là, à 38$, il y a une partie de ces bénéfices-là qui est redistribuée en dividende. Puis l'argent, dans le fond, le dividende, c'est pas gratuit. Il faut le calculer dans le prix du titre aussi. C'est que le dividende qui est donné, la partie des bénéfices qui est redonnée, au prix du titre présentement, ça donne 7 % environ de dividendes. Mais intrinsèquement, si on calcule, mettons, dans les prochaines années, avec les bénéfices qu'il devrait y avoir, puis si ce titre-là revient se trader aux alentours de 15 fois les bénéfices, bien, on arrive avec un titre qui est au-dessus de 60$. Puis intrinsèquement, avec son cash flow qu'on serait capable de sortir, là, le modèle que Warren Buffett utilise, c'est un titre qui est considéré autour de 90$. Fait que là, présentement, c'est un aubaine d'acheter ce titre-là. Mais là, ça ne veut pas dire de tout mettre là-dedans.
Non,
on
c'est
peut
ça.
Y aller par étapes. Ce qu'on fait, c'est qu'on regarde ces genres de titres-là présentement qui, en 2023, devraient fonctionner parce que si notre bourse, ça s'en va, travaille de côté pendant un certain temps, mettons, Verizon ne bouge pas pendant un an, ben tu collectes pareil 7 % de ton dividende. Tandis que si tu as un titre qui ne bouge pas pendant un an et qu'il n'y a rien après ça, ben là, tu perds comme une année.
Exact.
Là, si on compare au taux de 10 ans, mettons qu'on compare toujours notre rendement de nos titres par rapport au bon du Trésor 10 ans du gouvernement, ben ton bon de 10 ans, il est à peu près à 3,5 ou 4 %. Là. Le 2 ans est à 4, puis le 3 ans est à peu près à 3,5. Ben là, tu fais plus en ayant le dividende avec Verizon que d'avoir un CPG, autrement dit. Puis tu risques que cette compagnie-là prenne de la valeur dans le futur. Fait c'est pour ça que, de notre côté, moi, les CPG, ça n'a jamais été un champ d'intérêt, parce que si on fait le moindrement un petit travail, qu'on regarde quelques ratios, quelques compagnies, on est capable de trouver beaucoup mieux que ça.
C'est ça. L'intelligence artificielle, on en parle beaucoup. Tu vas-tu surveiller ça en 2023?
Ben, je surveille, puis là, d'après moi, il y a une bulle qui est en train de se créer là-dessus.
Ouais.
Fait que là, justement, aujourd'hui, là, il parlait sur les postes financiers que... probablement qu'il allait avoir des IPO, là, des nouvelles compagnies qui allaient sortir en bourse en 2023 dans le AI, parce que là, ça va faire encore une fois, là, là, comme un peu comme la marijuana a fait, puis la crypto-monnaie. Puis qu'à un moment donné, on va rentrer avec du... il va y avoir d'autres compagnies. Puis là, ce que ça fait, bien, là, tout le monde achète ça parce que c'est supposé d'être l'avenir. Puis à un moment donné, il y a plein de compagnies là-dedans qui ne seront pas nécessairement... Mais il y en a une qui est bonne là-dedans, là, c'est justement qu'on parlait tantôt, NVIDIA. Là, elle est un petit peu chère côté boursier, mais c'est une des compagnies. Tu sais, toute l'intelligence artificielle est en train d'utiliser les produits qu'NVIDIA sont...
Ouais.
Eux autres font. Fait que c'est un leader là-dedans.
Tout le monde capote sur ChatGPT.
Oui, ChatGPT, c'est la même affaire. Là. À un moment donné, là, ils ont sorti ça, puis là, ça, sur le Instagram, là, c'était juste des vidéos que tout le monde essayait de programmer, plein d'affaires avec ChatGPT. Il y en a qui essaient de vendre des algorithmes qui vont prévoir des mouvements boursiers avec ChatGPT.
Ah oui?
Je ne sais pas si un algorithme est capable de prévoir quand est-ce que la décision d'un gars comme Goldman Sachs va faire un meeting un matin et va dire « ben là, on rentre dans ce titre-là ». Maintenant, il y a des affaires. Oui, on est capable d'anticiper des mouvements.
Ouais.
Et te dire « cette journée-là, ça va partir ». Moi, je peux pas faire ça. Là.
C'est ça.
J'ai pas de boule de cristal. Je pense pas qu'un AI va faire ça non plus. Mais c'est sûr qu'il y a des mouvements boursiers quand tu programmes des choses, parce que la majorité des mouvements boursiers sont programmés déjà par des ordinateurs, mais ce que moi, j'essaie de programmer, puisque le Goldman Sachs essaie de programmer, d'abord, moi, je n'ai pas la même capacité financière avec mes programmeurs de faire ça. Fait que je ne me lance pas là-dedans.
Un jour, peut-être qu'on en saura plus. Les bons du Trésor, c'est quoi ça?
Bien, ça, c'est des produits, autrement dit, que des gouvernements ou des fois, là, même les institutions financières vont offrir, comme les CPG. Nous autres, on fait des farces avec ça. Là. C'est un CPG, c'est un certificat de perte garantie, c'est ce qu'on dit. C'est parce que dans les dernières années, les taux d'intérêt, ils étaient tellement pas élevés, qu'ils étaient quasiment à zéro. Comme, dans ton placement, c'est qu'il faut que tu battes au moins l'inflation. Si ton produit fait 1 % puis ton inflation est à 2,5-3, tu perds ton pouvoir d'achat. Fait, tu perds de l'argent.
Il faudrait que ça soit à 3,5.
C'est ça. Fait que là, c'est quoi les autres options qu'on a? Bon, ben là, il y en a qui vont investir dans l'immobilier. Puis là, tu essaies de trouver justement des entreprises qui vont te donner au moins, tu sais, battre ça. Mais quand tu as un revenu, parce que ça, c'est en revenu d'intérêt. Fait que quand on prend un bon du Trésor ou c'est un produit fixe, dans le fond, qui va avec un taux d'intérêt, puis là, on a des coupons à tous les 6 mois, autrement dit. Fait que si vous prenez un 2 ans présentement, puis qui est à 4 %, bien là, sur 1 000, bien là, pendant 2 ans de temps, vous allez recevoir un coupon de 2 fois par année qui va vous donner 4 % par année. Puis c'est pas plus, puis vous allez recevoir, votre capital est garanti à la fin, le capital nous revient, autrement dit. Sauf que c'est ça. C'est toujours quand tu fais un investissement, c'est es-tu capable d'avoir mieux? Puis ça dépend de la stratégie des gens. S'il y a des gens qui veulent s'acheter des maisons dans une courte période de temps, mettons d'ici 6 mois, 1 an, 2 ans, bon, ben là, faire l'investissement boursier, mettons, d'aller placer ça dans un titre de croissance, c'est peut-être pas la bonne solution parce que tu as besoin de ton argent rapidement.
Ouais.
Donc là, tu vas aller vers ce produit-là, mettons, qui va te donner un certain rendement pareil pendant 2 ans, puis après ça, tu vas l'utiliser. Si on y va vers le long terme, mettons qu'on parle de 10 ans, 15 ans, ou les jeunes, mettons, entre 20 ans à la trentaine, là, 20, de la vingtaine à la trentaine, là, si les gens ils ont des portefeuilles prudents, il faut absolument revoir la stratégie. Là. Si les gens, là, entre 20 et 40 ans, puis que vous avez un horizon de placement jusqu'à la retraite, puis vous avez des portefeuilles prudents ou modérés, il faut absolument revoir la stratégie. Il y a quelqu'un qui n'a pas fait sa job à quelque part. Là. C'est soit le représentant financier ou vous manquez de connaissances.
Ouais,
parce que là, ça tue, dans le fond, le pouvoir de l'intérêt composé. Mm-hmm. Tu l'as vu, le calcul, là, quand on fait juste de changer de 2 % par année, là, sur une longue période de temps, l'intérêt, par-dessus l'intérêt, c'est immense ce que ça fait. Puis c'est pour ça que faut, en 2023, écoutez, il y a des produits, quand j'en ai donné deux tantôt, là, on ne les nommera pas à la radio, là, il y a des produits financiers qui utilisent des stratégies d'investissement actifs qui donnent du 10-12 % de dividendes. Puis que ça, c'est constant, dans le fond. Puis là, il y a des gens qui ne croient pas à ça quand on en parle comme ça. Mais parce que le dividende, il n'est pas gratuit. Puis souvent, quand tu as une compagnie avec un gros dividende, ce que ça fait, bien, c'est ce dividende-là, il n'est pas soutenable ou la compagnie, elle se fait manger justement son dans le fond, dans sa valeur boursière à cause qu'elle donne un gros dividende. Mais ça, ce n'est pas la même affaire. Fait qu'il y a des produits financiers, des ETF qui existent, qui donnent ce genre de rendement-là parce qu'eux autres, ils ont une stratégie active en utilisant des options en arrière. À 12 %. Fait que de ça, c'est des produits présentement dans un marché de côté ou en descendant, quand le marché est en descendant, que c'est ces produits-là qui performent le mieux. Fait que c'est pour ça qu'il faut s'informer. Puis c'est pas tellement long. Puis ça, c'est toutes des choses qu'on explique avec la formation. C'est comment justement utiliser les bons produits dans les bonnes stratégies puis dans les bonnes circonstances de marché qui fait en sorte qu'on va maximiser là, toutes ces opportunités-là.
Qui est envoyé, t'offres des formations pour des gens qui voudraient faire du day trading. Est-ce que les formations commencent à chaque semaine? Comment ça? Tu fais-tu des cohortes?
Oui, c'est trois. Dans le fond, j'ai 3 groupes de cours par année. C'est que on commence 3 nouvelles sessions.
Ouais.
On a une session d'hiver, de printemps puis d'automne.
Okay.
La prochaine de printemps commence la semaine du 1er mai. Donc, on a une séance d'information le 24. Moi, ce que je suggère aux gens pour cela,
mettons. 24 avril?
Oui, le 24 avril prochain à 19h. C'est gratuit par webinaire. Ça dure environ 1h30. Ce que je suggère aux gens, c'est que ceux qui s'intéressent à ça, mettons qu'ils sont green, là, les gens, puis il y en a qui connaissent ça un petit peu, qui veulent se lancer là-dedans, c'est d'écouter cette séance-là, parce que là, on explique comment on utilise nos graphiques. Tu sais, j'explique différentes stratégies qu'on peut faire. Puis là, j'explique qu'est-ce qu'on fait. Puis j'explique la formation. Fait que là, si les gens sont intéressés par la suite, mettons que tu sais, quelqu'un regarde ça puis ça l'appelle, bon, bien là, ensuite de ça, il peut se lancer dans la formation. Puis si quelqu'un regarde ça puis il trouve que c'est du chinois finalement puis ça ne l'intéresse pas, bien, il est capable de prendre la décision en conseil.
Ben,
nous autres, on ne veut pas, tu sais, on ne revend pas comme un cours. Là.
C'est ça.
On offre un écosystème de formation que les gens qui sont intéressés à le faire par eux-mêmes, mais au moins avec ça, on est capable d'éviter toutes les erreurs. Bien, tu sais, pas toutes, là, mais on est capable d'au moins être protégé de les choses qu'il ne faut pas faire, de faire les bonnes choses. Puis au fur et à mesure qu'on prend tu sais, il y a des gens qui veulent faire du day trading puis se rendre compte que c'est un petit peu plus compliqué qu'ils pensaient. Puis il y en a d'autres qui voulaient faire de l'investissement à long terme, puis après avoir pris la formation, mais eux autres, ils veulent se lancer dans le day trading. Fait que c'est différent pour tout le monde, mais c'est comme le hockey, ça. C'est,
exact.
Une fois que tu le vis, c'est pas pareil comme l'écouter à la TV.
C'est ça. Donc, c'est le 24 avril, 19h, ouais. Et ça se fait par webinaire. On peut aller sur ton site cobaltinvestissement.com.
C'est ça. L'inscription, elle se fait par là, c'est gratuit. Puis, dans le fond, on vous envoie le lien webinaire. Puis ensuite de ça, ben, je vais prendre les questions des gens là, par webinaire. Puis, ceux qui sont intéressés, ben, après ça, on commence notre session de cours.
Gaétan Royer, merci d'être passé sur les ondes de Boulevard.
Ça fait plaisir.
Passe donc une belle soirée.
Oui.
Salut.
Bonjour.
Bye-bye.
Marceau, le soir. Ce jeudi seulement, Plancher Océanique vous offre 20 % de rabais sur la gamme Art Béton. Démonstration et autres rabais exclusifs sur place. On vous attend. Plancher Océanique, rue Maurice-Bois.
Chez Normandin, on troque la fourchette pour la cuillère. Déjeuner, brunch, burger de la cabane, pizza, poulet, bacon à l'érable. Le menu des sucres est arrivé. Normandin. Ça fait plaisir.
Tant qu'à avoir payé pour entretenir votre tignasse, rentabilisez votre investissement en traitant vos problèmes capillaires. Au Salon Ross, des solutions pour la perte ou vos problèmes de cheveux, on en a. Compléments capillaires, mésothérapie, PRP, soins des cheveux et bien plus. SalonRoss.ca. Des cheveux pour toujours.
Le Patrou Rock Amadour célèbre ses 75 ans en grand avec le retour de son personnage iconique, le Patrou Lapin. Procurez-vous ce délicieux lapin en chocolat pour financer les services offerts aux jeunes du Patrou Rock Amadour, tout en courant la chance de remporter un véhicule Nissan 2023 sélectionné. Les jeunes ont besoin du Patrou et le Patrou a besoin de vous. Allez hop au patroulapin.com pour les détails. Les 75 ans du Patrou Rocamadour, une présentation de la Caisse des Jardins de Limoilou, de TVA, du Journal de Québec et Boulevard 102.1.
Puis, qu'est-ce que t'en penses?
J'aime vraiment ça. Au début, on sent le... C'est goûteux, c'est... Il y a quelque chose de vraiment... OK, non, pas tant que ça. Plus... Ah, pis goûte-y, tu vas comprendre.
Ben oui, tu parles de...
C'est exactement ça. Hey, t'as du vocabulaire, toi.
Microbrasserie La Souche, une forêt de saveurs. Limoilou, Stoneham et à la grandeur du territoire.
Avenged Sevenfold en concert. L'attente est enfin terminée. Avenged Sevenfold au Centre Vidéotron le 21 juillet prochain. Avec invité spécial Alex on Fire.
Billets en vente ce jeudi 10h sur gestev.com et ticketmaster.ca.
Avenged Sevenfold au Centre Vidéotron. Une présentation Live Nation et Gestev.
Nouvel album disponible le 2 juin.
Le monde du spectacle te fascine? Fais ta demande d'admission au deuxième tour avant le 1er mai au programme de production scénique, régie et technique scénique offert au Centre d'études collégiales de Montmagny. À 50 minutes de Québec, on t'offre une formation intensive de 2 ans avec une tonne d'expérience terrain sur des vrais shows et festivals. Étudier chez nous, c'est payant. Découvre les bourses dont tu pourrais bénéficier et la liste complète des programmes sur cecm.ca.
Boulevard 102, 100% Québec. On vit pour le rock. Boulevard.
Une propriété Leclerc Communication.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir.
Alors voilà, c'est tout pour moi pour ce soir. Ne manquez pas les podcasts dans les prochaines minutes. C'est Denis qui s'en vient avec toute sa belle gang de gravel en podcast. Histoire assez émouvante ce soir. Restez là. Un individu qui a été victime d'intimidation en raison de la grosseur de son pénis au hockey. Donc, Denis en parle avec l'individu. Il semblerait que c'est un moment qui est extrêmement touchant. C'est 4 degrés sur Québec. Attendez un petit peu, c'est pas 4 degrés ça. On va faire un petit refresh. Bon, voilà, c'est autour de zéro actuellement. Des averses de pluie, de neige pour ce qui est de ce soir. Accumulation de neige à certains endroits entre 2 et 10 cm, surtout dans le secteur nord de Québec. Minimum de moins 10 pour ce soir et cette nuit. Pour ce qui est de demain, jeudi, ben, c'est des averses de neige qui devraient cesser en matinée. Ce sera maximum de moins 3 pour ce qui est de demain. Vendredi, une alternance de soleil et nuages avec un maximum de plus 3. Pour ce qui est du week-end, c'est souvent ce qui nous intéresse. Pour ce qui est de la mer à Théo, de la neige ou de la pluie pour samedi 1er avril, maximum de plus 2 degrés. Et dimanche, ben, ce sera ensoleillé avec un maximum de moins 2. Je vous laisse là-dessus. Les podcasts s'en viennent. Puis nous autres, ben, on se retrouve demain, 11h30, pour ce qui est de Marceau le midi. Merci d'avoir été là. Ciao!
Marceau le soir.
Vous voulez vendre votre maison? SimonLaberge.com. Les courtiers immobiliers numéro 1 au Québec du palmarès Via Capital. Ils ont les connaissances, l'expérience et le réseau de contacts. Vous voulez vraiment vendre votre maison? SimonLaberge.com. Courtier immobilier Via Capital. SimonLaberge.com.
Ainsi va la vie, Simon. Piscine et spa.
Chez Piscine Beauport, pour un temps limité, profitez de l'offre aucun paiement ni intérêt avant 2024 sur nos piscines hors terre, creusées, spa, barbecue et cuisine d'été sélectionnées. Profitez pleinement de votre saison avec Piscine Beauport.
Notre station Boulevard 102.1. qui porte les lettres d'appel CFEL-FM et diffuse sur la fréquence 102.1 FM, procède actuellement à des tests de mise en onde à partir de son nouveau site d'émetteur situé au Mont-Bélair. Si vous éprouvez du brouillage en lien avec notre signal, nous vous invitons à signaler l'endroit problématique en nous laissant votre adresse ou code postal à l'adresse signal@blvd.fm ou à communiquer avec nous au 418-529-1021, poste 8444. Merci de votre collaboration. Un message de Boulevard 102.1, une propriété Leclerc Communication.
Chez Normandin, on troque la fourchette pour la cuillère. Déjeuner, brunch, burger de la cabane, pizza, poulet, bacon à l'érable. Le menu des sucres est arrivé. Normandin, ça fait plaisir.
102.1
Boulevard, fier de vous présenter le nouveau rock.
Linkin Park, Lost.
Pour les tunes. L'application Boulevard 102.1. Un incontournable.
Révolutionnez vos espaces avec TML Informatique, expert en domotique. La domotique, c'est ce qui permet de créer un environnement connecté. Grâce à ce système simple et intelligent, vous économiserez de l'énergie et maximiserez votre confort. Confiez votre projet à notre équipe certifiée Control 4. TMLinformatique.com.
C'est pas pour rien qu'ABBA, c'est le choix du consommateur depuis plusieurs années. Nos estimations sont gratuites, nos interventions sont rapides. Chez ABBA, on vend du résultat. Il y a plus de 1000 avis en ligne qui prouvent que notre solution, ben, elle fonctionne. ABBAExtermination.ca ou appelez-nous maintenant au 666-6667. ABBA, une solution définitive.
Avenged Sevenfold en concert. L'attente est enfin terminée. Avenged Sevenfold au Centre Vidéotron le 21 juillet prochain. Avec invité spécial Alex on Fire.
Billets en vente ce jeudi 10h sur gestev.com et ticketmaster.ca.
Avenged Sevenfold au Centre Vidéotron. Une présentation Live Nation et Gestev.
Nouvel album disponible le 2 juin.
Ici, une radio parlée voulait informer plutôt que désinformer. Ici, une radio parlée voulait divertir plutôt que de chialer. Ici, une radio parlée voulait rassembler plutôt que diviser. Ici, une radio parlée voulait aussi jouer le meilleur rock.
Ben là, ça serait plus une radio parlée.
Ben oui, mais avec du rock.
Ben là, ça serait la radio parfaite.
Ben, c'est ça. Boulevard 102.1, la radio parlée qui joue aussi du rock. Yeah!
Boulevard 102.1.
Gravel dans le retour, le podcast vous est présenté par Accommodation Chaloux. Parce que chez Chaloux, on veut pas se vanter, mais on a pas mal plus de sortes de bières que Denis peut avoir d'histoires à raconter.
Pour les sujets plus légers, comme pour les sujets sérieux, Chaloux nous accompagne dans le podcast de Gravel dans le retour. Chaloux, c'est des partenaires de longue date. Depuis des années, ils nous font confiance dans toutes nos nouvelles aventures, dans tous nos projets, dans tous nos transferts, et on les apprécie beaucoup pour ça. Puis en même temps, ben l'univers des microbrasseries a grandi en même temps que Chaloux et peut-être un peu en même temps que Gravel dans le retour. Puis on a vu cet univers-là exploser ensemble et maintenant tout le monde en profite. Quand on a commencé à jaser de Chaloux, il y en avait un, l'original à Saint-Émile. Maintenant, vous avez la grande surface à Beauport, vous avez la gang extraordinaire d'Émilie du côté du Grand Marché. Posez vos questions, puis on commence à voir la bière comme on voit le vin, avec le choix de bouffe, l'accord avec le dessert, l'entrée et ainsi de suite. On a des gens qui sont des passionnés et qui sont prêts à vous répondre. Suivez Accommodation Chaloux sur les réseaux sociaux, particulièrement Facebook, pour les nouveaux arrivages. Des fois, ça part très vite, mais vous partez toujours avec une longueur d'avance si vous nous suivez sur Facebook ou encore accommodationchaloux.com.
Gravel. Gravel dans le retour, le podcast. Une production Boulevard 102.1.
« L'intimidation est un sujet qui a fait jaser pas mal dans les derniers mois, je dirais même dans les dernières années. Puis, je sais pas vous autres, mais il me semble qu'on réalise qu'il n'y a pas de petites histoires d'intimidation. Et il y en a beaucoup qui, pendant des années, ont été cachés avec un peu de gêne en dessous d'un tapis ou peut-être, sans faire de mauvais jeu de mots, dans le fond d'un vestiaire. Le journaliste Martin Leclerc a fait un travail extraordinaire pour nous exposer un dossier d'intimidation dans le hockey. Notre sport national, notre religion, ça a créé bien des tempêtes d'un océan à l'autre. On voit même maintenant des conséquences de ça. Gilles Courteau s'est fait démissionner à titre de commissaire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Il était là depuis près d'un demi-siècle et j'exagère à peine. Il y a eu beaucoup de réflexions, beaucoup de réactions, beaucoup d'émotions, mais aussi il y a des gens qui ont décidé de leur propre initiative de faire leur sortie et de contribuer au débat et de partager leurs expériences d'intimidation. Et un de ceux qui l'a fait, puis ça m'a touché particulièrement parce que je pense qu'il m'a écrit un petit peu avant de faire sa sortie, c'est un auditeur de longue date, puis je suis très heureux qu'il soit avec nous aujourd'hui pour partager son histoire. Sébastien Ziska, bienvenue dans le podcast.
Salut, Danny. Merci de me recevoir.
Hey, dis-moi donc, Ziska, là, ouais. C'est quoi ça? C'est la première fois que j'entends ce nom-là de ma vie.
Ben, c'est dans mon temps, c'était Tchécoslovaquie, mais maintenant, c'est séparé. C'est République tchèque, maintenant Tchéquie.
OK. Puis, c'est-tu tes parents qui ont émigré ici ou...
Non, c'est mon arrière-arrière-grand-père en 1889, je pense, hein? De mémoire, ouais.
OK.
Puis lui, s'est sauvé, il voulait se sauver de Prague, donc il a pris un bateau dans le temps. Puis lui, son rêve, c'était de rester à New York. Mais je sais pas, les outils de guidage n'étaient pas comme aujourd'hui.
Il a fait comme Jacques Cartier, ouais, les vents l'ont amené vers le nord.
Fait qu'il a débarqué à Québec, puis il a commencé sa famille okay. ici. Mais on n'est pas beaucoup.
T'as quel âge?
49.
Qu'est-ce que tu fais dans la vie?
En ce moment, je suis aux études.
Okay.
Retour aux études pour un changement de carrière.
Oh yes.
Pour être en soutien informatique, technicien en soutien informatique.
Sébastien, qu'est-ce qui t'a motivé des années après que ce soit arrivé, les histoires que tu as racontées sur ton Facebook, entre autres? Je me dis, à 49 ans, il y a peut-être eu moyen de tourner la page ou de laisser ça derrière. Qu'est-ce qui t'a... Où t'as senti l'appel de dire « je dois me soulager de ce poids-là »
Ben, c'est quand j'ai lu l'article de M. Leclerc dans... C'est tout ça son nom, monsieur?
Martin Leclerc,
Martin
oui.
Leclerc, exactement, de Radio-Canada. Puis là, c'était des cas en Ontario. Mm-hmm. Donc, je me suis dit « hey, ça arrive ici aussi ». Puis là-bas, il y a un recours collectif. Là, il me dit « oh, OK, j'apprends ça. J'ai des victimes ici aussi. Mais... » Eux, ils parlent seulement des juniors, mais mm-hmm. c'est ça qui m'a chicoté.
OK.
Parce que moi, c'était, j'avais 12-13 ans. C'était mm-hmm. dans les bantam que c'est arrivé.
Tu trippais sur le hockey comme un malade quand oui. tu étais petit?
Oui, mon idole, c'était Daniel Bouchard. J'étais oh yes. pur nordique.
Fait que comme n'importe quel petit gars qui trippe sur le hockey, c'est quoi les réflexes qu'on a? C'est de vouloir des patins, puis c'est voilà. de vouloir jouer.
Exactement. Puis j'ai commencé novice, atome, peewee, bantam. Puis c'est là que ben, je pourrais lire ma lettre tantôt, si tu le veux bien. Mm-hmm. Mais c'est arrivé au bantam qui ont mis les douches obligatoires.
Hey, avant de se rendre là, je veux juste savoir, parce qu'il y a deux types de joueurs de hockey. Il y a ceux qui sont bons au hockey, puis il y a ceux qui aiment jouer au hockey. Moi, j'étais dans ceux qui aimaient jouer au hockey.
Moi aussi.
Toi aussi.
Avec le recul, Denis, je te dirais que j'étais assez moyen.
On n'était pas dans les grosses équipes. Puis, j'ouvre la porte à ça parce que il y a peut-être des gens qui se font une idée que l'intimidation, c'est juste dans les milieux compétitifs du sport d'élite, où c'est juste ailleurs, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne.
Non, non.
Dans toutes les équipes de hockey, il y a des bullies. Particulièrement quand on est jeune, c'est une façon de se démarquer. C'est très animal comme façon de faire. Puis je pense que quand on est jeune, 90 % du temps qu'on est méchant, on s'en rend même pas compte à quel point on peut l'être.
Exactement, c'est vrai ça. C'est un bon point que t'apportes. Mais c'est pas juste dans le hockey, comme tu dis. Puis je sais pas, le fait de sortir aussi, je me suis dit... Me semble qu'ils sont en retard. Mm-hmm. Ça, ça sort avec de l'arriérage. Ça date pas d'hier. C'est comme les batailles qu'on voit dans les cours d'école dernièrement aux nouvelles.
Pas nouveau, hein?
Parce que tout le monde a un cellulaire.
Mais ouais.
Dans mon temps, puis dans le temps de mes parents, ça se battait à l'école aussi. Là.
Exact.
Le phénomène n'est pas nouveau, puis souvent, c'est lui qui est plus gêné, qui va manger et voler. Tu sais, c'est...
T'es un gars gêné.
Oui.
Je suis un gars gêné aussi. J'ai deux grands garçons à la maison. Le plus grand, il est comme son papa, il est gêné aussi. On vient de passer l'étape de se dire, « Hey, s'habiller dans le vestiaire au lieu de s'habiller avant de partir de la maison, il me semble qu'on gagnerait du temps. Tous les autres joueurs le font aussi, et ainsi de suite. » On a eu cette conversation-là. Puis je sais qu'il y en a une autre qui va s'en venir à un moment donné aussi, parce que les gens les plus gênés, d'aller prendre sa douche dans le vestiaire avec le reste de la gang puis se déshabiller flambant d'un vestiaire, c'est pas nécessairement évident pour personne. Puis je pense que pour toi, c'était pas évident non plus.
Non. Puis oui, ça commençait.
OK.
Ils prenaient leur douche, mais je me disais, oh, moi, non. Je m'en vais chez nous, je me lave chez nous. Mais j'avais déjà remarqué que, OK, l'intimidation que j'ai eue, c'est à cause que je suis moins amanché que la majorité,
okay.
Ça on peut dire.
Mm-hmm.
Et puis, ben moi, ça me complexait énormément. Je suis encore complexé à cause de ça.
OK.
Et puis, moi, tu vois, moi ma réflexion aussi, toi, t'as des gars, tu parles de tes gars.
Ouais.
J'ai des neveux. J'ai pas d'enfants, mais j'ai des neveux. Puis mon petit-neveu, Marek, il a 12 ans, puis il est très gêné aussi. Fait que j'ai comme pris ça comme inspiration. Je voudrais pas que ça arrive.
Je comprends. Je comprends tellement. Puis l'adolescence, c'est un moment où t'essaies de te faire croire que tu veux être différent des autres, mais tout ce qui te différencie des autres te rend tellement mal à l'aise.
Ouais.
Moi, je l'ai eu, la peur d'aller prendre ma douche avec les autres, puis la raison... c'était que moi, j'ai commencé à avoir du poil avant n'importe qui d'autre. Fait que t'avais un paquet d'imberbes dans l'équipe, puis il y avait moi qui avais quasiment un afro là, à la hauteur de l'aine. Puis moi, ça, pour vrai, ça m'intimidait full blast, puis je sais que c'est pas nécessairement la même chose puis la même histoire, mais je pense qu'à cette époque-là de notre vie, on est particulièrement vulnérable. Puis on fait... Est-ce qu'on crée nous-mêmes un genre de build-up de stress autour de ça puis que ça rempire un peu la situation? Oui, hein?
Oui.
Si pendant des années, tu t'es dit « Hey, je suis différent des autres, je vais pas prendre ma douche », il me semble que plus ça va, pire ça devient. Hein?
Oui, exactement. Ah, oh, t'as un build-up, c'est vrai.
Qu'est-ce qui a changé finalement? Parce que j'imagine que t'avais les bonnes vieilles stratégies d'usage. Je me déshabille très oui. lentement pour être sûr que tout le monde aille le temps de prendre oui. sa douche. Tout le monde a le temps de sortir. Après ça, je pars avec ma oui. serviette. Je la garde autour de ma taille jusqu'à la dernière seconde.
Ma serviette, j'enlevais mes bobettes.
Oui.
Fait que je relais jusqu'aux douches avec ma serviette. Je la tenais, là.
Là, tu te trembles vite, puis tu ressors en courant
ouais,
quasiment.
C'est toutes des douches communes. Dans ce temps-là, ouais. je ne sais pas aujourd'hui comment c'est dans les vestiaires.
Je pense que ça n'a pas changé ouais, beaucoup okay, à ce okay. niveau-là. Il y a des coachs, à un moment donné, qui se sont impliqués pour dire la douche, c'est obligatoire pour tout le monde. Puis ça a été comme ce qui t'a obligé à...
Oui, oui. Oui, puis ben comme tu dis, je l'ai écrit dans mon témoignage, je prenais mon temps, puis je prenais tout le temps la douche le plus dans le coin du mur pour que le monde me voie de dos.
Mm-hmm.
Je me douchais vite, savonnais, OK, je remets ma serviette, je retournais. Puis quand dans les premiers temps, ben la majorité avait déjà pris leur douche et s'était rhabillé, il y en a même qui étaient partis, tu sais, fait que c'est jusqu'à temps qu'un jour... un tir sur ma couverte pendant que je m'en allais aux douches. Puis
hey, là, écoute, ouais. t'étais une cible ambulante. Je veux dire, ouais. la crainte que t'avais, tous les préparatifs que tu faisais, t'étais comme devenu une cible sans t'en rendre compte. Là,
ouais.
là il y a des gens qui sont probablement dit, parce que des flots, c'est comme ça, « Oh, lui, il a quelque chose à cacher. Lui, il se passe de quoi?
Ouais.
Lui, il n'est pas à l'aise d'aller dans la douche. »
Puis on j'étais va... gêné.
Ouais.
Je parlais pas beaucoup. Je viens d'une famille... on est un peu timide.
Mm-hmm.
En tout cas, je suis comme ça. Mon frère, il l'est moins, mais bon.
D'ailleurs, t'es timide. Je veux te remercier d'être ici aujourd'hui parce que t'es nerveux, puis je le sens, puis je sais c'est quoi d'être nerveux. J'apprécie le fait que tu l'aies fait sur tes réseaux sociaux puis que tu le fasses avec nous autres aujourd'hui parce que t'as parlé de nos enfants puis qu'on veut changer les choses pour les gens qui nous suivent et ainsi de suite. Mais si... tu passes pas par-dessus cette gêne-là, par-dessus cet inconfort-là. Toi, tu gardes le poids de ton histoire, puis ton histoire ne peut pas servir à personne. J'apprécie exact. Beaucoup la démarche. Puis quand je t'ai invité au podcast, moi, j'avais l'impression que tu allais dire, ben là, moi, mon histoire est out there, ma part est faite. Mais que tu sois venu t'asseoir avec nous autres, je trouve ça extraordinaire. Bravo.
Ben merci beaucoup. Je le fais pas tant que tel pour mon propre intérêt. Mm-hmm. C'est juste que, comme j'ai dit, tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que la société peut faire pour mettre des mesures en place pour que les jeunes parlent avant?
Parce que toi, faut l'expliquer, là. Quand je dis qu'il n'y a pas de petites histoires d'intimidation, toi, à partir du moment où un kid de ton équipe a tiré sur ta serviette, tout a changé bout pour bout. Là.
Oui. Ah oui, oui, oui.
Ton amour du hockey.
Oui.
La relation avec les autres dans le vestiaire, t'as tout de suite vu un changement?
Tout le monde a ri.
Uh-huh.
Fait que là, moi, j'ai ri, jaune, parce que je voulais faire partie de la gang, tu sais. Mais là, tout le monde riait de moi. En dedans de moi, je craquais de tous les bords. Là, c'est « Hein, qu'est-ce qui se passe là, tabarouette? » Puis, ben ça a dégénéré par la suite parce que ceux qui ont... Lui qui a tiré sur ma serviette, ben là, il avait vu mon stratagème. Mm-hmm. Lui, il attendait que j'aille dans la douche pour prendre la sienne.
Puis, il avait averti tout le monde.
Oui, mm-hmm. Oui. Puis là, ben le rituel qu'ils se sont mis à faire, c'est qu'ils étaient quatre gars, puis ben ils me pissaient dessus.
Pis dans la douche?
Oui. Autour de moi, puis là, ils riaient, puis ils me pissaient dessus. Puis en tout cas, c'est... Moi, je riais encore, mais j'étais démoli en dedans de moi, mais je voulais pas le dire. Je voulais faire partie de la gang. J'avais honte de ça, mais je voulais pas... Je sais pas pourquoi.
Quand c'est-tu arrivé à plusieurs reprises?
Oui.
Est-ce que tu en as parlé avec les entraîneurs à l'époque?
Oui. Oui, on avait deux coachs qui étaient, eux, dans le junior. Ils étaient dans la catégorie junior, donc ils n'étaient pas... C'était des jeunes adultes. Puis j'avais dit, je suis plus capable de prendre ma douche ici. Je veux la prendre chez nous. Je peux-tu avoir une exception? Mm-hmm. Puis ils ont dit non.
Ils ont dit non?
Non.
Puis tu leur avais raconté comment ça se passait dans les douches puis qu'est-ce qui se passait?
J'avais dit que j'étais pas à l'aise.
OK.
Je sais pas si ça...